un événement, une idée de sortie, un invité, la quotidienne, c'est l'invité du jour sur Altitude FM 93.5.
Bonjour Martine, avec vous pour l'invité du jour. Ils sont venus à deux aujourd'hui pour nous rencontrer. Jacques Thomas, bonjour.
Bonjour Martine.
André Arnal, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, tous les deux sont là parce qu'ils vont nous présenter leurs ouvrages et surtout, quelle est la grande histoire qu'ils vivent à travers leurs écrits et qu'ils nous restituent d'ailleurs. Et très prochainement, vous pourrez d'ailleurs les rencontrer ici même dans Audi-Sud, à la Média Ludo, pour une séance de rencontre d'une part, mais surtout de signature également d'autre part. Alors, pour chacun d'entre vous, quelle part importante tient l'histoire dans votre recherche? Est-ce que c'est un devoir de mémoire ou bien est-ce que vous allez au-delà?
Moi, je suis historienne de métier. Et donc, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 25 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon ponctuelle. Après, ce qui a changé dans ma vie, c'est le pouvoir de choisir des sujets un peu différents. Parce que quand j'étais à l'université, j'étais dans mon créneau universitaire pour être reconnu par mes pairs. Et donc, il fallait creuser un certain nombre de filons assez étroits et ne pas badigeonner à droite à gauche. Avec la retraite, j'ai le privilège de pouvoir toujours faire de l'histoire, mais de pouvoir choisir des sujets un petit peu en fonction à la fois de l'actualité et des occasions qui se présente parce que, comme André, nous sommes à l'association Blagnac Histoire et Mémoire et ça nous donne l'occasion d'aborder des questions d'histoire locale qui souvent ont des répercussions au-delà. Et en tant que président des Amis des Archives de la Haute-Garonne, je suis aussi confronté avec toute une série de questions liées à la recherche, à des sources et je m'éclate en faisant ça.
Jack, est-ce qu'il vous est arrivé de découvrir des événements?
Bien sûr, bien sûr.
C'est là où c'est passionnant.
Découvrir des événements. Pour Blagnac, en 2020, parce que nous étions en train de travailler sur une revue « Gouverner Blagnac du Moyen-Âge à nos jours », et il était question des coutumes médiévales de Blagnac. Un jour, j'étais aux archives départementales et je suis tombé sur une chemise dans laquelle il y avait deux copies en latin des coutumes de Blagnac qui avaient été faites au XVIIe siècle, pour des procès entre la communauté des habitants de Blagnac et les seigneurs. Et donc là, j'ai trouvé des coutumes qui, en fait, avaient été perdues depuis le XIXe siècle, lorsqu'il y a eu un incendie à la mairie de Blagnac en 1836. Donc, je suis le découvreur, l'inventeur des coutumes de Blagnac, ce qui me donne quand même une grande fierté, et c'est totalement le hasard.
André, alors quant à vous, quel est donc ce rapport que vous avez avec l'histoire?
Alors pour moi, je ne suis pas historienne de formation, j'étais directeur d'école, mais je me suis toujours intéressé à l'histoire et je me souviens quand j'étais à l'école, l'histoire m'intéressait beaucoup et je fouillais dans les livres d'histoire. Et j'ai toujours lu des livres d'histoire et depuis que je suis à la retraite, ça fait quelques années, je me passionne pour l'histoire. Et ce qui a été déterminant, c'est qu'en 2006, j'ai découvert que mes grands-parents avaient hébergé, caché des Juifs. Et j'ai voulu savoir ce qu'avaient fait ces Juifs, quel a été leur sort. Et donc j'ai fait des recherches, j'ai écrit un livre, Des Juifs et des Justes. Et à partir de là, je me suis découvert une passion d'historienne, de chercheur. Je vais aux archives, dans les bibliothèques. Enfin, je suis passionné et je continue. Alors l'histoire, la période qui m'intéresse le plus, c'est la première moitié du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et entre les deux guerres. Et j'ai écrit un livre, c'est l'histoire de la gauche dans la Haute-Garonne. 1934, c'est une année charnière et ça prépare les élections de 1936 et la victoire du Front populaire.
Et vous, Jack, est-ce que certaines périodes ont vos préférences?
Oui, mais l'essentiel de mon travail en tant qu'historien universitaire, c'est plutôt, on va dire, la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, j'ai eu deux vies dans ma vie d'historienne.
C'est le scoop, attention.
Oui, non, mais la première partie, c'était ce que j'ai fait autour de ma thèse, qui tournait autour de la question des foires et marchés dans les campagnes toulousaines, dans un grand 19e siècle qui allait de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au à la Première Guerre mondiale. Ah. Donc là, j'étais dans l'histoire rurale, l'histoire des campagnes et des bourgs avec les foires et marchés qui étaient quand même un endroit très important pour la vie économique et pour la vie sociale des habitants des campagnes. Et quand j'ai un peu épuisé ce filon-là, j'avais envie de regarder autre chose. Je suis remonté un peu dans le temps, plutôt vers l'Ancien Régime, et travaillant beaucoup sur les archives judiciaires, et notamment le célèbre Parlement de Toulouse. Là aussi, c'est un peu le hasard des retrouvailles dans les archives. Par exemple, un jour, je suis tombé sur ce qu'on appelle un factum. C'est un mémoire judiciaire, c'est-à-dire c'est un avocat de l'Ancien Régime qui raconte l'histoire de son client et qui le défend avec les arguments juridiques. Et c'était l'histoire d'un ancien esclave des Algérois qui avait été fait prisonnier, qui avait passé 10 ans à Alger dans les années 1770-1780 et qui avait été racheté par le Royaume de France et arrivé à Toulouse en 1785. Et là, il dit qu'il est tel personnage toulousain qui avait disparu depuis des années. C'était une sorte de martingale de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, ça m'a ouvert toute une série de pistes et j'ai travaillé sur des affaires judiciaires où il y avait des choses qui n'avaient pas été résolues par les juristes de l'époque.
L'actualité, ce sont certains livres qui sortent actuellement, une maison d'édition, une série également, cette année-là à Toulouse, expliquez-nous.
Et cette année-là à Toulouse, c'est le projet à la fois de l'éditeur Bernard Seden et des éditions Midi-Pyrénéennes qui siègent à Portée, sur Garonne, et de notre collègue et ami Didier Foucault, qui était prof d'histoire à la fac du Méhail et qui a eu l'idée de retravailler l'histoire toulousaine à travers des dates, et notamment des dates qui évoquent des événements importants, parfois pas connus, pas nécessairement, qui vont de la préhistoire quasiment jusqu'à nos jours, avec un petit livre en trois parties.
Oui.
Une partie qui raconte l'événement,
d'accord,
dans son immédiateté. Une deuxième partie qui resitue l'événement dans le contexte local et au-delà si nécessaire. Et une troisième partie qui aborde les résonances de l'événement, c'est-à-dire quel écho cet événement a eu à la fois immédiatement et peut-être bien au-delà.
C'est ça. Jacques, qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne de tout cela?
1762, c'est donc on est dans les dernières années de l'Ancien Régime et c'est un moment où les protestants français sont en train d'émerger un petit peu comme après une longue éclipse liée à la révocation de l'édit de Nantes. Qui date du siècle précédent, de 1685. Et donc, les protestants français vivaient dans la clandestinité. Ils restent protestants, beaucoup, ceux qui ne sont pas partis, ceux qui ne sont pas convertis définitivement. Et donc, il y a ces protestants. À Toulouse, il y en a très peu. Toulouse a toujours été une ville excessivement catholique. Depuis le XVIe siècle, il y a eu des massacres qui ont fait qu'il y a peu de protestants à Toulouse. Et parmi ces familles protestantes, il y a la famille de Jean Calas. Et Jean Calas se trouve tout d'un coup confronté à ce qu'on pourrait appeler un drame intime, parce que son fils aîné est trouvé mort un soir d'octobre 1761. Et la question, est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'il a été tué? Et l'hypothèse des autorités toulousaines très rapidement et que Marc-Antoine Calas a été tué par son père et sa famille, et peut-être plus largement par les protestants, pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Et donc tout le procès s'est enclenché autour de cette idée. Il y a eu un procès devant les capitouls, ensuite devant le Parlement de Toulouse. Jean Calas est condamné à mort, il est torturé, il est exécuté à la place Saint-Georges. Et ensuite, on pourrait dire, commence l'affaire Calas, parce que à la mort de Jean Calas, des personnes ont alerté Voltaire, qui habite à ce moment-là sur la frontière suisse avec entre le pays de Gex et Genève. Et donc, il est alerté, il prend fait et cause pour les Calas, surtout il a rencontré des enfants Calas, et il se lance dans une vaste campagne de réhabilitation. Ça va durer pendant 3 ans. Et à la fin, après de très nombreuses interventions de différentes sortes, le gouvernement et les tribunaux royaux vont prononcer l'acquittement de tous les Calas et la réhabilitation de la mémoire de Jean Calas, de telle sorte que ça a bougé des lignes et des gens ont commencé à voir des protestants non pas comme des séditieux et des tueurs, mais comme des sujets comme les autres qui pouvaient être intégrés dans le corps politique de la nation, ce qui s'est fait finalement à la Révolution française et depuis sans problème globalement.
André, qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne de cela ?
Dans ce livre 1934, c'est une page de notre histoire qui a près de 90 ans et elle résonne aujourd'hui tout à fait.
Et comment peut-on se procurer vos divers livres ?
Alors, ces livres se trouvent dans beaucoup de librairies, notamment à Toulouse. On peut penser à la librairie de la Renaissance du côté de Bastogne-Cambo. On peut penser à Ombre Blanche au centre-ville, bien connue de tous les Toulousains.
Tout à fait. André, trouvez vos livres.
Comme Jacques, oui. Mais également, tout acheteur peut commander à un libraire le livre et le libraire fera avoir.
Hein. Oui.
Collection donc cette année-là à Toulouse, les éditions Midi-Pyrénéennes. Ils sont venus à deux, j'étais ravie de les recevoir sur Altitude FM. Jacques Thomas, merci d'être venu.
Merci Martine.
Et merci Martine.
Et avec grand plaisir André Arnal. Et puis donc on vous retrouvera au mois de février en présentiel, comme les choses se disent à l'heure actuelle, ici à la médiathèque, à la Média Ludo d'Audi-Sud pour une signature.
Le 1er février 2025.
À 16h.
À 16h de l'après-midi, c'est un samedi après-midi.
Merci messieurs, merci Jacques, merci André, et à une prochaine fois.
Merci Martine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Et très bonne journée à tous et à toutes.
C'était l'invité du jour sur Altitude FM.